Fanny. Samedi 19 décembre 1992. Résidence étudiante Nicolas de Staël. Brisé par la fatigue, j'écrase bâillement sur bâillement. Les pages de notes de mes cours de biologie moléculaire dansent devant mes yeux, mais mon cerveau ne parvient plus à les ingurgiter. Je lutte pour ne pas m'endormir. Le froid surtout me transperce jusqu'aux os. À deux doigts de rendre l'âme, mon chauffage d'appoint ne crache plus qu'un air poussiéreux et tiédasse. J'ai mis de la musique pour rester éveillé. Dans les enceintes de ma chénifie, le spleen profond de The Cure s'égrène chanson après chanson. Disintegration, Plain Song, Last Dance. L'exact miroir de mon âme esselée. Avec la manche de mon pull, j'essuie la buée qui s'est accumulée sur la vitre de la chambre. Dehors, le paysage est irréel. Le campus est désert et silencieux, figé sous une croûte de nacre. Un instant, mon regard se perd dans le lointain, au-delà du ciel gris-perle, d'où se précipitent encore des flocons. Mon estomac est assiégé de brûlures et de borborygmes. Je n'ai rien avalé depuis hier. Mon placard et mon frigo sont vides, car je n'ai pas un franc en poche. Je sais qu'il faudrait que j'accepte de dormir un peu et que j'arrête de mettre mon réveil à 4h30 du matin. Mais la culpabilité m'en empêche. Je pense au programme de révision que j'ai élaboré pour ces 2 semaines de vacances. Je pense à cette putain de première année de médecine qui laissera sur le carreau les 2/3 des élèves de ma prépa. Et je me demande s'il y a vraiment un sens à tout ça. Ou plutôt, je me demande si je suis à ma place. Est-ce ma vocation de devenir médecin? Quelle direction va prendre ma vie si j'échoue à ce concours? Chaque fois que je songe à mon avenir, je ne vois qu'un paysage terne et triste. Même pas une plaine hivernale, mais un éventail infini de gris. Celui du béton, des barres d'immeubles, des autoroutes et des réveils à 5h du matin. Celui des salles d'hôpital, de l'acier qui te laisse un sale goût dans la bouche lorsque tu te réveilles, le corps poisseux, à côté de la mauvaise personne. Je sais que c'est ce qui m'attend, car je n'ai jamais eu cette légèreté, cette insouciance et cet optimisme que portent en étendard un grand nombre des élèves de notre lycée. Chaque fois que je songe à mon avenir, je vois la peur, l'ennui, le vide, la fuite, la douleur. Mais soudain, je t'aperçois, Thomas. À travers la vitre, ta silhouette, ployée par le vent, se détache dans la blancheur laiteuse de cet après-midi d'hiver. Et comme chaque fois, mon cœur bondit dans ma poitrine et mon humeur s'adoucit. D'un seul coup, je n'ai plus sommeil. D'un seul coup, j'ai envie de vivre et d'avancer. Parce qu'il n'y a qu'avec toi que ma vie pourrait être sereine, prometteuse, porteuse de projets, de voyages, de soleil et de rires d'enfant. Je pressens qu'il existe un chemin étroit vers le bonheur. Mais je ne pourrai l'emprunter qu'avec toi. Je ne sais pas par quelle magie, la souffrance, la boue, la noirceur que je porte en moi depuis l'enfance semble s'effacer lorsqu'on est ensemble. Mais je sais que sans toi, je serai toujours seul. Soudain, je t'aperçois, Thomas. Mais l'illusion se dissipe aussi vite qu'elle est arrivée. Et je comprends que tu ne viens pas pour moi. Je t'entends monter l'escalier et entrer dans sa chambre. Tu ne viens plus jamais pour moi. Tu viens pour l'autre, pour elle, toujours pour elle. Je connais Vinka mieux que toi. Je sais qu'elle a ce truc dans le regard, dans sa façon de se déplacer, de glisser une mèche de cheveux derrière l'oreille, ou d'entrouvrir légèrement la bouche pour sourire sans sourire. Et je sais que ce truc n'est pas seulement néfaste, mais qu'il est mortel. Ma mère l'avait aussi. Cette sorte d'aura maléfique qui rend les hommes fous. Tu l'ignores, mais Lorsqu'elle nous a quittés, mon père a essayé de se tuer. Il s'est empalé volontairement sur l'armature rouillée d'un bloc de béton. À cause des assurances, on a toujours prétendu que c'était un accident du travail. Mais c'était une tentative de suicide. Après toutes les humiliations que ma mère lui avait infligées, cet abruti affirmait ne pas pouvoir vivre sans elle, et il était prêt à abandonner ses 3 enfants mineurs. Toi, tu es différent, Thomas. Mais il faut que tu te libères de cette emprise avant qu'elle ne te détruise, avant qu'elle ne te fasse faire des choses que tu regretteras toute ta vie. Tu frappes à ma porte, et je vais t'ouvrir. « Salut, Thomas, » dis-je en retirant les lunettes de vue que je porte sur le nez. « Salut, Fanny, j'ai besoin que tu m'aides. » Tu m'expliques que Vinka se sent mal, qu'il lui faut de l'écoute et des médicaments. Tu dévalises ma boîte à pharmacie, et tu me demandes même de lui préparer du thé. Comme une cruche, tout ce que je trouve à te répondre, c'est « je m'en occupe ». Et comme je n'ai plus de thé, je suis contrainte de récupérer un vieux sachet au fond de la poubelle. Je ne suis bonne qu'à ça, bien sûr. Et me mettre au service de Vinka, le pauvre petit oiseau blessé. Mais pour qui tu me prends? On était heureux avant qu'elle vienne cannibaliser nos vies. Regarde ce qu'elle nous fait faire. Regarde ce que tu m'obliges à faire pour attirer ton attention et te rendre jaloux. C'est toi qui me jettes dans les bras de tous ces mecs que je fréquente. C'est toi qui me forces à me faire du mal. J'essuie mes larmes avant de sortir dans le couloir. Là, tu me bouscules sans t'excuser ni m'adresser la parole. Tu dévales l'escalier. Voilà, je suis dans la chambre de Vinka. Et je me sens un peu conne, toute seule avec ma tasse de thé. Je n'ai pas entendu votre conversation, mais je devine qu'elle a encore joué la même partition. Celle qu'elle maîtrise sur le bout des doigts. Manipuler les gens dans son théâtre de marionnettes pour se donner le rôle de la pauvre victime. Je pose cette putain de tasse de thé sur la table de nuit et je regarde Vinka qui s'est déjà assoupie. Une part de moi comprend le désir qu'elle inspire. Une part de moi aurait presque envie de s'allonger à côté d'elle, de caresser sa peau diaphane, de goûter sa bouche rouge, ses lèvres ourlées, d'embrasser ses longs cils recourbés. Mais une autre part de moi la hait. Et j'ai un mouvement de recul lorsque, l'espace d'une seconde, l'image de ma mère se superpose à celle de Vinka. Il faudrait que je retourne travailler. Mais quelque chose me retient dans cette chambre. Une bouteille de vodka à demi pleine est posée sur le rebord de la fenêtre. J'en avale 2 gorgées, à même le goulot. Puis je furette. J'inspecte les papiers qui traînent sur le bureau. Je parcours l'agenda de Vinka. J'ouvre les placards. J'essaie certaines de ses fringues. Et je découvre le contenu de sa boîte à pharmacie. Je ne suis qu'à moitié surprise d'y découvrir des somnifères et des anxiolytiques. Elle a toute la panoplie du parfait junkie. Rohypnol, Tranxen, Temesta. Si les 2 dernières boîtes sont presque vides, le tube contenant l'hypnotique est lui bien rempli. Je me demande comment elle a pu obtenir ces médocs. Sous les emballages, je trouve de vieilles ordonnances rédigées par un médecin canois, le docteur Frédéric Rubens. Visiblement, le toubib prescrit ses drogues comme si c'était des confiseries. Je connais les propriétés du rohypnol. Sa molécule, le fulnitrazépam, est prescrite pour soigner des insomnies sévères. Mais comme le truc rend accro et a une demi-vie très longue, son utilisation doit être limitée dans le temps. Ce n'est pas un médoc que l'on consomme à la légère ou sur une trop longue période. Je sais que le produit est aussi utilisé pour se défoncer en le mélangeant à de l'alcool, voire à de la morphine. Je n'en ai jamais pris, mais j'ai entendu dire que les effets étaient dévastateurs. Perte de contrôle, comportement erratique et souvent absence totale de souvenirs. L'un de nos profs de fac, un médecin urgentiste, nous a dit que de plus en plus de patients étaient conduits à l'hôpital pour des cas de surdosage et que le rohypnol était parfois utilisé par les violeurs pour annihiler les défenses de leurs victimes et leur faire perdre la mémoire. Une anecdote circule. Lors d'une rave party dans la campagne grassoise, une fille qui en avait pris une forte dose s'est immolée par le feu avant de se jeter du haut d'une falaise. Je suis tellement épuisé que je n'ai pas les idées claires. Un moment, sans que je sache comment cette pensée m'est venue, je joue avec l'idée de dissoudre les comprimés de benzodiazépine dans le thé. Je ne veux pas tuer Vinka. Je voudrais juste qu'elle disparaisse de ma vie et de la tienne. Souvent, je rêve qu'une voiture la renverse en pleine rue ou qu'elle se suicide. Je ne veux pas la tuer et pourtant, je fais glisser une poignée de cachets dans ma main et de ma main dans le mug brûlant. Ça n'a pris que quelques secondes, comme si je m'étais dédoublé, comme si j'étais extérieur à la scène et qu'une autre que moi avait accompli ce geste. Je ferme la porte et retourne dans ma chambre. Je ne tiens plus debout. Cette fois, la fatigue me terrasse. À mon tour, je me couche sur mon lit. Je prends mon classeur et mes fiches d'anatomie. Il faut que je travaille, que je me concentre sur mes cours. Mais mes yeux se ferment tout seuls et le sommeil m'emporte. Lorsque je me réveille, il fait nuit noire. Je suis aussi trempé que si j'avais eu une forte fièvre. Le radio-réveil indique minuit et demi. Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi d'un seul trait pendant 8 heures. Je ne sais pas si tu es revenu entre-temps, Thomas. Et je ne sais pas comment va Vinka. Prise d'une terreur rétrospective, je vais taper à sa porte. Comme je n'obtiens pas de réponse, je me décide à rentrer dans sa chambre. Sur la table de nuit, la tasse de thé est vide. Vinka dort toujours dans la position où je l'ai laissée. Du moins, c'est ce que j'essaie de me faire croire, mais lorsque je me penche vers elle, je constate que son corps est froid et qu'elle ne respire plus. Mon cœur se bloque. Une onde de choc me dévaste. Je m'effondre. Peut-être que l'histoire était écrite. Peut-être que dès le début, les choses devaient se terminer comme ça, dans la mort et dans la peur. Et je sais quelle est la prochaine marche. En finir, moi aussi. Me débarrasser pour toujours de cette souffrance insidieuse qui me colle à la peau depuis trop longtemps. J'ouvre en grand la fenêtre de la chambrette. Le froid glacial me happe, me mord, me dévore. J'enjambe le rebord pour sauter. Mais je ne parviens pas à aller au bout de mon geste. Comme si la nuit, après m'avoir humé, ne voulait pas de moi. Comme si la mort elle-même n'avait pas de temps à perdre avec mon insignifiante petite personne.